J'invite à ouvrir votre Bible en 1 Timothée 2. On va continuer notre étude de cette épître à Timothée, 1 Timothée chapitre 2. On va lire les versets 8 à 15. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 15. C'est des passages qui ne sont pas toujours très appréciés ou très compliqués aussi. On va essayer d'expliquer tout cela, en profiter une fois. Donc 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 15. Il faut avoir en mémoire que la dernière fois, on avait parlé des versets précédents qui incitaient l'Église à prier pour ce monde, pour que les gens soient sauvés et que le gouvernement nous laisse en paix. Et donc, il continue. Je veux donc, ça s'enchaîne, hein, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle, et vous l'avez souvent au singulier, mais c'est en fait au pluriel, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est un passage un peu difficile, on aura surtout la fin, mais on va essayer d'expliquer tout cela. Mais il fait le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, l'an dernier, sur Timothée, de cette prière, de ce désir de Dieu de voir tous les hommes sauvés et de pousser l'Église tout simplement à prier pour le salut et la paix aussi de l'Église. Et maintenant, il donne des consignes un peu plus pratiques, on pourrait dire, à l'encontre de l'homme et à l'encontre aussi de la femme. Alors, ce passage aujourd'hui est très réinterprété, on va dire, par rapport au ministère féminin, et beaucoup n'aiment pas ce passage ou le tordent, et on va essayer de l'analyser ce matin pour dire ce que dit vraiment la Bible et pas ce que le monde veut bien entendre, hein, parce qu'on aime bien entendre des bonnes choses. On essaie de mélanger la culture avec la Bible et à un moment on fait un peu n'importe quoi et c'est l'occasion de l'expliquer clairement. Alors surtout, ce qu'on a à comprendre là-dedans avant tout, c'est que hommes et femmes, nous avons des responsabilités. Alors, on a vu qu'on est déjà ouvrier de Dieu, mais en plus maintenant, parce que des fois on peut être ouvrier mais ne rien faire. Hein. Un ouvrier normalement a des responsabilités, il est là pour travailler et on va voir un peu ses responsabilités. Et dans un premier temps, il s'adresse aux hommes, hein. C'est très large, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la première chose, c'est voir la responsabilité de l'homme de l'Église. Il dit, je veux que les hommes, il y a des hommes ici ?
Oui.
Ah, avec le mot grave et tout. Je veux que les hommes, donc ça nous concerne, messieurs. Hein. Alors, il y a un désir de Paul, là, il y a un désir de Paul. Le donc, hein, je veux donc que les hommes, ça met en relation avec ce qui a été dit avant. En fait, il faudrait peut-être même dire que la mission des hommes, c'est de faire ce qu'il y avait un petit peu avant, de prier aussi pour le salut de ce monde hein, et pour la paix de notre Église et de notre pays. Donc il est en relation, il met ça en relation. Mais cette volonté qu'il a, c'est, dans le grec, c'est « il veut, mais avec affection hein, ». Des fois, on dit « je veux », mais là, il le fait avec beaucoup d'affection et avec beaucoup d'amour parce qu'il sait aussi l'objectif qu'il a derrière. Hein. Et en même temps, on se souvient que Paul est quand même apôtre et quand il dit quelque chose... Parce qu'il faudrait quand même l'écouter. Et quand il a un désir, ce n'est pas un désir comme ça, vite fait. Et donc, je pense qu'au fond de son cœur, beaucoup de commentateurs pensent qu'il veut qu'on prie pour qu'il y ait un réveil spirituel, nous les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas prier, on est bien d'accord. Mais c'est notre responsabilité. Vous voulez un réveil spirituel ? Où on est bien comme ça, tranquille, toute quarantaine, là, le dimanche matin. Moi, j'aimerais bien un vrai réveil. Alors, pas pour le nombre, je m'en fous, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais pour notre relation avec Dieu, notre croissance spirituelle, c'est là où le réveil va se faire. Et Paul veut justement que les hommes prient pour que ce réveil se mette en place. Vous savez, quand des hommes se mettent à prier, et il y a eu des réveils dans ce monde, c'est impressionnant, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Spurgeon, qui était en Angleterre, ils ont beaucoup prié, 5000 personnes, hein, et c'était vraiment des chrétiens, et bon, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, mais quand on prie, Dieu se met en action, il ne faut pas croire. Alors des fois, ça peut durer longtemps. On va dire que parce que je prie, il va y avoir forcément du résultat. Les gens qui ont prié 40 ans et il n'y a rien eu, ils sont morts, et puis d'un coup l'Église s'est réveillée. J'espère qu'elle se réveille avant que je meure. Hein. Mais bon. Donc il veut que les hommes prient, hein, et le terme mot homme là-dedans, dans le grec c'est aner, c'est plutôt l'époux ou le mâle. En fait, il est en train de distinguer l'homme de la femme, là, tout simplement. Donc il parle autant à nous les maris, on va dire, mais aussi à tous les hommes en tant que mâles, différents de la femme. Et en même temps, certains pensent qu'il s'adresse aussi aux responsables d'église. Et si on est responsable dans une église, ben, on va diriger le culte, on va peut-être prêcher, on a là une place devant. Et donc on a aussi une responsabilité, et une grande responsabilité, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, parce qu'il y a aussi un contexte culturel, dans les synagogues, il n'y avait que les hommes qui priaient. Les femmes, vous n'aviez pas le droit. Deviez vous taire. Interdiction. Et là, Paul va révolutionner complètement, en fait, la culture. Et évidemment, cette façon de faire, peut-être, a été transmise à l'Église aussi, que seuls les hommes priaient, mais il est dit dans d'autres passages, hein, dans Corinthiens ou ailleurs, les femmes priaient aussi dans l'Église. Hein. Mais la responsabilité peut être aussi le moteur que nous pouvons être, nous. Hein. Voilà. Dieu nous demande d'aller de l'avant et de prier pour le pays, pour la paix, pour l'Église, pour la croissance, pour le réveil spirituel. Il dit qu'il prie en tout lieu. Il emploie 4 fois cette expression dans ses écrits, hein, en tout lieu. Généralement, c'est l'assemblée officielle de l'Église. C'est ici, on est en tout lieu, là, quelque part. C'est l'homme qui prend la direction du culte, hein, on va voir ça pourquoi tout à l'heure, prédication, présidence et prière aussi, quelque part. Il dit de faire en élevant des mains pures, hein, des mains pures. Alors, c'était la posture dans l'Ancien Testament quand ils priaient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Juifs, ils prient avec les mains comme ça. Je ne sais pas comment ils font parce qu'à un moment, j'ai des crampes. Hein, mais bon. Mais c'était la posture qu'ils avaient. Il y a une espèce de symbolique là-dedans. On sait qu'il y a eu des peintures dans les catacombes. Hein, c'est là où les chrétiens se réunissaient quand ils étaient persécutés. On voit aussi les hommes qui priaient avec les mains élevées. Je pense qu'il y a aussi une forme de symbolisme. Parce que les mains, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? On travaille. Hein, il y a ce symbole du travail et de l'activité aussi de l'homme, et dans cette activité de l'homme, ben, il faut que ses mains soient pures, hein, parce qu'on peut tricher, on peut voler, on peut, j'espère vous tuer pas, enfin bon, mais si on prie, ce que Dieu veut, c'est qu'on ait les mains pures, hein. Ça sert à rien de se présenter devant Dieu avec tous nos péchés et demander quelque chose à Dieu. Dans le psaume, il est dit, si j'avais conçu l'iniquité, tu ne m'aurais pas écouté. Donc si je viens avec tout mon péché et que je demande à Dieu de réveiller l'Église, etc., Dieu bouge ses oreilles. Et des fois, on se demande la question, mais pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Parce que des fois, ben, je n'ai pas réalisé, moi, en tant qu'homme, que je suis dans le péché ou que je n'ai pas réglé peut-être tous mes problèmes. Et évidemment, Dieu ne m'exauce pas, ou enfin, il m'entend, mais il ne m'écoutera pas. Donc, c'est venir devant Dieu avec ses mains pures. Alors, il ne s'agit pas d'être parfait, hein, messieurs, il n'y a personne qui est parfait. Mais quand même, si on a conscience qu'on vient de tuer quelqu'un et qu'on va aller prier Dieu après, tranquillement, pour le réveil de l'Église, il y a un petit paradoxe, non? Alors là, j'exagère l'image, mais des fois, il y a d'autres choses plus simples et qui pourtant ne plaisent pas à Dieu. Et si je me présente comme devant lui, ben, il ne m'écoutera pas. Les hommes ont donc cette responsabilité de vivre une vie sainte, c'est pas rien, l'air de rien. C'est d'avoir une bonne conscience et un cœur pur, un cœur en règle avec Dieu. Pas un cœur parfait, parce qu'on est toujours pécheur, mais un cœur qui peut être au maximum en règle avec Dieu. Comme j'ai dit, si je prie en péchant, si j'ai de la haine pour quelqu'un, Dieu ne m'écoutera pas, il veut d'abord que je règle mon problème avec celui avec qui j'ai un conflit. Il dit aussi de prier avec les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors la colère, hein, c'est, dans le grec, c'est plus clair, c'est orgé. Ça vous rappelle quoi, orgé? Orgueil, hein, voilà. Enfin, on a de la colère et avec de l'orgueil derrière. Hein. Alors, on se pose la question pourquoi ils avaient de la colère à ce moment-là. Alors certains pensent que c'était peut-être à l'encontre des Juifs, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé pourquoi. Mais on peut des fois prier avec, au fond de son cœur, avec la colère pour je sais pas, bah, mon patron, pour quelqu'un dans ma famille, etc. Et là aussi, bah, le Seigneur nous demande de faire attention à cette manière de prier. Hein. Aussi prier sans mauvaise pensée. Hein, on a des fois des doutes peut-être, on a des pensées là, qui ne sont pas forcément pures. Et se présenter devant Dieu comme cela, ben, c'est pas agréé. Dans Matthieu 5, 24, il a dit « Si tu as quelque chose contre ton frère, ne te présente pas devant Dieu, laisse-la ton offrande et il va d'abord régler ton problème avec ton frère. Et ensuite, tu viens pour me prier ou pour m'offrir une offrande. » Et donc, Dieu nous appelle, nous, en tant qu'hommes, à avoir une certaine vie déjà, une vie de qualité, hein, pas une perfection, mais une vie de qualité, et de temps en temps élever ses mains pures, de prier pour nous, pour notre famille, mais aussi peut-être pour l'Église, pour la paix dans notre pays. Ça vous intéresse, la paix dans le pays? Ou une petite guerre, là? Non, hein, je ne crois pas, moi ça ne m'intéresse pas, mais le jour où ça arrivera, peut-être qu'il faudra se dire qu'on a failli à notre tâche aussi. Ça arrivera peut-être. Hein. Et parce que moi, je pense que l'Église en France ne prie pas assez pour cela. On prie pour un tas de choses, mais pas pour ce genre de choses, alors que c'est demandé dans la Bible. Donc voilà notre responsabilité en tant qu'homme dans l'Église. Dans les autres épîtres, il y en aura beaucoup d'autres, mais on va rester collé au texte ce matin. D'avoir ses mains pures, d'avoir une vie de qualité qui serve le Seigneur. Et pour avoir une vie de qualité, il faut aussi apprendre à connaître Dieu, prendre le temps de lire sa Bible, le temps de l'étudier aussi. Et là, je nous encourage en tant qu'homme, hein, parce qu'on a aussi cette mission dans notre famille d'être le point central, on pourrait dire, le référent, pour que ma femme puisse venir me dire, mais voilà, je comprends pas ça dans la Bible. On est là aussi pour ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça s'apprend. Puis Paul va s'intéresser aux dames, un peu plus longuement. Alors on a l'impression que c'est plus long, mais comme j'ai dit, il aurait fallu commencer au chapitre 2, verset 1, jusqu'à ce qu'on a vu ce matin pour parler des hommes. Mais il s'intéresse aux femmes et à la tenue des femmes dans l'Église. Alors là, il y a des milliards de choses à dire, mais on va rester collé au texte, simplement. Quand je rentre dans l'Église, en tant que femme, et vous savez, on peut le mettre aussi pour l'homme, hein, de plus en plus aujourd'hui, parce que les hommes deviennent de plus en plus coquets et bizarrement habillés des fois. Mais bon, il y a une attitude, il y a un témoignage dans la manière dont je me vêtis. Le vêtement a donc son importance, nous dit Paul, et le verbe qu'il emploie, vêtir, c'est cosméo. Ça vous rappelle quelque chose ? Là, c'est des trucs de femmes, ça ne me comprend rien, machin. Tout ce qui est cosmétique, ouais. Mais en grec, ça veut dire aussi arranger. Hein, quand je me vêtis, quand je me vais, je suis en train de m'arranger. Je suis en train de mettre en ordre quelque chose sur moi et qui va avoir un impact sur ceux qui sont devant moi. Alors, ce verbe vêtir exprime aussi les goûts, mais en même temps, ma façon de me vêtir va montrer qui je suis. Parce que selon la façon de me vêtir, ça a un impact sur les autres, que ce soit les hommes et les femmes. Ça a aussi un effet sur les autres. Et la question est donc de savoir, et c'est ce qu'il est en train de mettre en place là, c'est comment la femme doit se présenter devant Dieu au culte. Parce qu'on est là dans le contexte du culte. Enfin, la façon de me vêtir au culte devrait être la même à l'extérieur normalement. On ne va pas mettre une mini-jupe en sortant de l'église, on est bien d'accord. Il me semble bien. Alors, il parle peut-être de cette mauvaise tenue. Il n'en parle pas directement, mais vous savez, on peut venir complètement débrailler et Dieu ne sera pas plus d'accord. Hein, si vous venez complètement... C'est pas mieux que de venir trop habillé ou trop somptueux. Il y a toujours un équilibre avec Dieu. Alors il faut comprendre dans le contexte que c'est les tresses, hein, parce que là on a l'impression que c'est des petites tresses. Alors c'est pas ça que Dieu est en train de dire, enfin que Paul est en train de dire. Il faut savoir que les coiffures à l'époque de ces dames montaient à une hauteur inimaginable. Il y avait des strates en fait sur ces coiffures. Et sur ces coiffures il y avait de l'or. Vous êtes déjà venu avec de l'or, c'était un lingot d'or sur votre coiffure là. Il y avait des perles, ils avaient des habits somptueux, ça fait qu'en fait, dès qu'ils rentraient, c'est comme si un roi rentrait en fait dans l'église. Forcément, qu'est-ce que ça fait ? Ça attire l'attention, on est bien d'accord. Alors, il ne s'agit pas de bien s'habiller, là, ils exagéraient à ce moment-là. Elles exagéraient, les dames. Hein. Elles exhibaient leur richesse, elles avaient le désir certainement de parader, et tout ça, évidemment, détourné de Dieu. Et moi, j'aime bien aller voir un peu dans les écrits des auteurs de l'Église primitive. Et quelqu'un écrivait, hein. Alors c'est Apline l'Ancien, un historien latin du 1er siècle, qui décrit une robe, il décrit un peu ces dames, qu'apportait Lollia, enfin une dame, épouse de l'empereur Caligula, et qui vaudrait aujourd'hui plusieurs milliers de dollars. Hein. Vous imaginez la belle robe. Les robes des femmes de peuple pouvaient coûter facilement entre 5 et 7 000 deniers, alors que le salaire quotidien d'un ouvrier était d'un denier. Elle venait avec ce genre de robe, hein, 7000 euros. Vous avez déjà eu des robes à 7000 euros ? C'est même plus, je pense, hein, parce que c'est juste un denier. En raison de leur prix extrêmement élevé, la plupart des femmes ne pouvaient pas se permettre d'acheter que 2 ou 3 toilettes dans toute leur vie. Vous imaginez ces pauvres dames qui n'avaient pas la chance de s'acheter des belles robes, et une dame comme ça qui rentrait avec tout le luxe. C'est pas agréable quand même, hein. Il n'y a pas de respect pour l'autre. Voilà le genre de distraction qu'engendre l'entrée dans le lieu d'adoration d'une femme riche, parée de ses plus beaux atouts, sans compter qu'elle reste ainsi vêtue de susciter l'envie des femmes plus pauvres. Forcément, ça va créer dans le cœur de la femme, pourquoi moi tu ne me bénis pas comme ça Seigneur, etc., hein, l'envie. Précisons que même les auteurs non chrétiens de l'époque n'hésitent pas à dénoncer un tel étalage de luxe. C'est pas que Paul qui le faisait, hein, c'est même les auteurs. Les païens disaient c'est trop, c'est exagéré. Fait confirmer par exemple par Juvénal, poète latin du 1er siècle, dans sa satire, il disait « Une femme se passe se passe tout, rien ne lui paraît honteux, de même qu'elle peut se mettre au cou un collier d'émeraude et suspendre de grands pendants à ses oreilles distendues. Alors, si elles sont distendues, c'est que ça devait être, à mon avis, très lourd, hein. Que des tâches superposées, qu'elle substructure dans cet édifice dont elle charge et surélève sa tête. Vous imaginez le truc ? Moi, j'arrive même pas à l'imaginer. De son mari, dans tout cela, elle ne se préoccupe aucunement. Elle faisait ce qu'elle voulait, finalement. Donc, on n'est pas en train de remettre en question une petite tenue tout à fait basique, hein. Il faut bien comprendre le contexte. Ces femmes exagéraient complètement leur façon de s'habiller. Paul parle plutôt d'une bonne tenue. Il parle d'abord de décente, une tenue avec pudeur et avec modestie. Alors, une tenue modeste qui est honorable, qui a égard aux autres. Qui a égard aux autres. C'est pareil pour les voitures. Hein. Si un jour j'étais riche et que je venais avec ma grosse Porsche, alors que je sais que dans l'église, il y a des gens qui sont pauvres, des fois, et qui n'ont pas les moyens de se payer même une voiture, moi, je ne vais pas parader avec ma grosse bagnole. Je ne ferais pas ça, surtout pas en tant que pasteur. Ça serait pour moi une espèce de honte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une Porsche. Bon, personne n'a les moyens. Mais voilà, hein, je fais attention aux autres et sans provocation sexuelle non plus. Parce que j'ai déjà vu dans des églises hein, quand des choses et... À un moment, il faut leur parler, parce que pourquoi vous vous habillez comme ça ? C'est quoi le but, en fait ? Paul demande d'être modeste. Un autre témoignage de Chrysostome disait, par rapport aux vêtements, hein, alors de quel habit veut-il parler, Paul ? D'un habit qui couvre le corps d'une manière décente et complète, mais qui n'est rien de recherché. C'est alors un ornement véritable, tandis que l'excès enlaidit. Expliquez donc votre conduite. Quoi, vous venez prier Dieu et vous voilà toute couverte d'or et d'artifice ? Venez-vous prendre part à quelques balles, à une noce ou à un carnaval ? N'avez-vous pas d'autre but que de parader ? Là sont admis par les usages du monde les parures luxueuses. Ici, elles ne le sont pas, enfin dans l'église. Hein. Vous êtes venus comme suppliantes implorer le pardon de vos péchés, demander au Seigneur de vous être propice, vous humilier au souvenir du passé. Pourquoi donc cette ambitieuse parure ? Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour montrer ses plus beaux vêtements. C'est parce qu'on veut prier Dieu, parce qu'on veut s'humilier devant lui, parce qu'on veut l'adorer. Un autre écrivait encore, Paul ne dit pas que les femmes doivent porter des vêtements ternes. Ça n'est pas d'être moche, c'est pas ça l'idée. Hein. Mais de tels vêtements pourraient être aussi portés avec vanité et être le fruit d'un désir de parade, parce qu'on pourrait s'habiller de façon très terne et très moche pour dire, regardez comme je suis spirituel. Ah oui, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, il ne faut pas croire. Hein. L'orgueil, il est vicieux. Hein. Donc le Seigneur a toujours un équilibre, pas trop, ni trop peu. Et pourquoi pas être coquette, moi ça ne me gêne pas, mais pas à l'excès. Vous êtes coquettes, les femmes ? Allez, avouez-le. Vous êtes toutes coquettes. Hein. Mais c'est bien, c'est pas mal. Mais après, il y a l'extrême. Hein, voilà. On peut être trop coquet ou pas assez. Mais le Seigneur veut toujours un équilibre. Et puis quelqu'un disait, tout est en fait dans l'intention du cœur quand je m'habille. Hein. Il disait, comment une femme peut-elle discerner la fine ligne qui départage parfois le vêtement convenable de celui qui attirera l'attention sur soi ? C'est pas toujours simple. Tout est dans l'intention du cœur. Il s'agit pour elle d'examiner ses raisons de vouloir porter tel ou tel vêtement. Souhaite-t-elle faire valoir la grâce et la beauté de la féminité ? Désire-t-elle démontrer son amour et son dévouement envers son mari et la bonté de celui-ci envers elle ? Veut-elle ainsi démontrer un cœur humble et engagé à adorer Dieu ? Ou cherche-t-elle à poser pour la galerie ? Ou pire encore, tente-t-elle de séduire carrément les hommes présents ? Il est vrai que la femme qui souhaite sincèrement adorer Dieu portera un soin tout particulier à sa tenue vestimentaire, car c'est son cœur qui lui dictera quel vêtement porter et quelle apparence privilégier. Et c'est valable pour les hommes aussi, parce que les hommes de plus en plus ont une façon de se vêtir aujourd'hui. Hein, je vois les jeunes avec le pantalon jusqu'en bas. Je ne viendrai pas comme ça à l'église en tout cas. Mais voilà, tout est dans le cœur en fait. Comment je viens ? Eh bien, c'est dans mon cœur. Et le vêtement démontre aussi la qualité de ce cœur. Donc Paul n'interdit pas, parce que j'ai déjà entendu ça, de bien s'habiller, d'avoir des beaux habits, d'avoir quelques bijoux, d'avoir une belle coiffure. Il n'est pas en train d'interdire ça. Hein. Mais ce qu'il voudrait, c'est que c'est Jésus qui soit attrayant, et pas la femme. Qu'on voit Jésus au travers de nous, hein, et pas l'inverse. Que Dieu soit complètement zappé à cause de notre vêtement. Et pourquoi pas, ben, si on ne sait pas, on peut demander à notre époux. Hein, je ne sais pas si on est une grande référence en cosmétique, etc., mais... Peut-être que je peux dire à un moment, là, tu exagères, ou là, c'est pas assez. Pourquoi pas ? Mais le Seigneur veut un équilibre dans notre façon de nous vêtir. Il dit qu'elle se pare de bonnes œuvres, donc ce n'est pas le vêtement qui doit être vu, et on rejoint les œuvres dont on parlait tout à l'heure. C'est la vie spirituelle qui doit être vue, pas mon vêtement. C'est le cœur qui doit être vu. Il dit comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si je suis une dame qui dit que je veux servir Dieu et que j'arrive avec une montagne de cheveux sur ma tête et avec des bijoux dans tous les sens, un sapin de Noël hein, pour moi ça, vous n'êtes pas en train de montrer Dieu là, vous montrez quelque chose d'autre, vous montrez que vous avez du fric, vous montrez que vous avez de la gloriole, etc. Mais ce n'est pas un cœur selon Dieu ça, on est bien d'accord. Donc la femme est responsable aussi de sa tenue, comme l'homme de prier, hein, qui va démontrer la réalité aussi de son cœur. Et puis dans un troisième temps, il va s'attaquer à la responsabilité de la femme dans l'Église. Et ça, c'est complètement controversé aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de discuter en long et en large. Un jour, on pourrait le faire en étude biblique. Mais il dit que la femme doit être enseignée. Et là, pour nous, on dit, bon, c'est normal. Mais il faut se remettre dans le contexte. Hein, parce qu'à l'époque, les rabbins refusaient, les juifs refusaient d'enseigner les femmes. Elles recevaient seulement du mari. Et donc vous n'aviez pas le droit de venir, on pourrait dire, à l'Église, entre guillemets, si on le remet dans le contexte, pour être enseigné par ces chef juif, hein. Même si l'Ancien Testament protégeait la femme, mais voilà, il y avait là une grosse différence, et donc Paul, là, il est en train de révolutionner complètement les traditions, les habitudes, hein. On dit souvent que Paul est misogyne, mais au contraire, c'est carrément l'inverse de ce qu'il est en train de faire, mais souvent on ne connaît pas le contexte, hein. Et elles pouvaient, et Paul dit là, elles doivent et elles peuvent apprendre. Dans un texte de l'Église primitive, hein, je disais, la femme grecque, hein, voilà comme elle vivait à l'époque, la femme grecque respectable menait une vie très en retrait, confinée à ses quartiers auxquels seul son mari avait accès. Ça nous rappelle des choses, ça, aujourd'hui. Hein. Elle n'apparaissait même pas au repas. Elle ne se trouvait jamais seule dans la rue et n'assistait jamais à aucune assemblée publique. Ça, c'est le contexte hein, dans lequel Paul est en train de parler. Et quand il dit que les femmes peuvent être enseignées, révolution, on est bien d'accord. Ça change complètement la vie de la femme à ce moment-là dans l'Église. Et on va lire dans Galates 3, 28, un texte qui est très controversé. Si quelqu'un veut nous le lire. Galates 3, 28. Parce qu'on peut...
Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Voilà. Et à partir de ce texte, je ne vais pas rentrer dans le détail, beaucoup disent aujourd'hui que l'homme est égal à la femme, et donc la femme peut faire ce que fait l'homme dans l'Église. Seulement, distinguer bien deux choses là-dedans. Il y a l'égalité spirituelle, ça c'est clair, devant Dieu, homme, femme, nous sommes tous allés à la croix et on est égaux. Par contre, le rôle en tant qu'homme et femme, on ne peut pas dire qu'un homme est devenu une femme et une femme est devenue un homme. On a toujours nos rôles bien respectifs, même si la société aujourd'hui veut carrément bafouer ces choses-là. Il y a une égalité spirituelle dans ce texte, mais il y a des rôles bien précis pour chacun. Il parle de l'esclave et du patron. Hein. Le patron et l'esclave, ils ne se sont pas fusionnés encore. Hein. L'ouvrier et le patron, ils ne sont pas encore égaux. Alors, si on veut tordre le texte, il faudrait aussi dire non seulement que l'homme et la femme peuvent faire la même chose, mais le patron et l'ouvrier aussi. Sinon, on interprète comme on veut. Donc, égalité spirituelle. Et il dit, Paul, elles doivent écouter l'instruction. Alors, écouter, c'est pas tu te tais et tu écoutes. C'est pas ce que ça veut vraiment dire. C'est plutôt, le mot veut dire plutôt apprendre, recevoir l'instruction. Et si vous étiez une dame à l'époque et que vous arriviez pour la première fois dans l'église, il demandait simplement, ben voilà, maintenant vous pouvez apprendre. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. C'est génial, non? Aujourd'hui, on peut et on vient plus. Non, je rigole. Mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire pour ces dames à ce moment-là. Il dit d'écouter en silence, hein, tranquillement. Ça ne veut pas dire taisez-vous. Il dit d'écouter tranquillement, sans se mêler aussi des affaires des autres. Alors, je ne dis pas que les femmes parlent plus que les hommes. Si ? Ah, ça va, parce que vous le dites alors. Hein. Dans 1 Corinthiens 14, il dit aussi que les femmes se taisent, parce que, bon, là, il y a 50 théories, mais je pense qu'à l'époque, il y avait les hommes et les femmes d'un côté, et puis la femme demandait à l'homme. Alors, vous imaginez, si la femme commence à poser des questions à l'homme, etc., le brouhaha que ça faisait. Vous savez, ce n'est pas demander qu'aux femmes d'être en silence dans le culte, hein, aux hommes aussi. Hein. Mais bon, elles s'intéressent aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à dire, qu'elles ne peuvent pas prier, puisque dans 1 Corinthiens 11, il en parle que les femmes priaient. Mais il s'agit de ne pas discuter, hein, pas prêcher non plus quelque part. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Et de faire tout cela avec une entière soumission, un acte d'obéissance, l'idée c'est tout simplement de ne pas déranger le culte, hein, par les discussions, par les bavardages, etc. Et comme je dis, je crois que chacun d'entre nous, même si on n'est pas une femme, on n'est pas là pour déranger le culte, on veut que ça se fasse dans la bienséance. Et il continue en disant, hein, là personne n'aime ça en ce moment, elles ne peuvent enseigner ni prendre autorité sur l'homme. Alors là, je vais être un peu plus technique, excusez-moi, mais il va falloir le faire, hein, parce que sinon on ne comprendra pas l'argument aujourd'hui. En fait, il est en train de dire littéralement, la femme ne peut pas être enseignante dans l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le grec, je dis je dois être technique, il y a des temps, il y a plusieurs temps. Et là, il faut distinguer deux temps. Et je vais lire un peu ce que j'avais noté. Alors, il y a enseigner, le verbe enseigner ici est à l'infinitif présent. D'accord ? Ce qui veut dire être enseignante. Ce n'est pas simplement enseigner ponctuellement. S'il avait voulu dire ça, il aurait utilisé un autre temps, c'est l'aoriste. D'accord ? L'aoriste, c'est ponctuel. Quelqu'un écrivait, il convient de remarquer particulièrement la différence entre l'infinitif aoriste et l'infinitif présent. Le premier, donc l'aoriste, dénote ce qui est éventuel ou particulier. C'est quelque chose de ponctuel, qui arrive ponctuellement. Tandis que le second désigne le fait d'exercer la foi. Tandis que le second indique une condition ou un processus. Par exemple, le mot pistéo, c'est la foi, en fait. Hein. Si vous le mettez à l'aoriste, ça désigne le fait d'exercer la foi en occasion particulière, hein, si vous le mettez à l'aoriste. Par contre, si vous mettez à l'infinitif présent, ça veut dire d'être un croyant. Vous voyez la différence? Il y a quelque chose de ponctuel, l'aoriste, et il y a quelque chose de continu, l'infinitif présent. Vous comprenez l'idée? C'est pareil pour le péché. Quand je commets un péché, je le mettrai à l'aoriste. C'est quelque chose qui arrivait ponctuellement. J'ai péché, je peux demander pardon au Seigneur. Par contre, si je le mettais à l'infinitif présent, ça signifie que je suis un pécheur continuellement. Vous voyez l'idée? En résumé, on pourrait dire, la femme ne peut pas accéder à la charge de pasteur-docteur dans l'Église. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas enseigner dans d'autres circonstances. Par exemple, enseigner les enfants, c'est dans la Bible. Hein. Il est demandé, par exemple, on voit l'exemple de Eunice et de Loïs, hein, la grand-mère et la mère, qui ont enseigné Timothée, justement, dans les Écritures. Et qu'est-ce qu'est devenu Timothée? Un évangéliste, un pasteur. Et moi, je suis un peu des fois jaloux des mamans, c'est vrai, parce que j'aimerais bien être à la place des mamans pour enseigner les enfants, pour qu'elles connaissent le Seigneur, qu'ils apprennent à marcher avec le Seigneur. Alors, ça ne veut pas forcément dire devenir un pasteur, mais qu'elles ont une sacrée responsabilité. Et je suis jaloux. Mais moi, je ne peux pas le faire en tant que pasteur, faire cela, dans la vie des enfants. Donc, elles peuvent enseigner les enfants. Ça ne signifie pas non plus qu'elles n'ont pas un don oratoire. Il y a certainement des femmes qui prêcheraient beaucoup mieux que certains bonhommes. Ça, j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé, là. Et elles peuvent aussi s'enseigner entre elles, hein, la Bible le dit aussi. On voit un exemple, parce qu'il est souvent pris, Priscille et Aquila, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple, et, qui ont instruit Apollos. Alors on pourrait dire, mais vous voyez, là, un homme et une femme ont enseigné un homme, mais ça s'est fait dans le domaine privé, et non pas dans le domaine public de l'Église. Donc c'est un cas absolument particulier. Donc, ce temps nous dit en fait que la femme ne peut pas enseigner continuellement, ne pas devenir un enseignant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être enseignant à l'extérieur. On parle là que le contexte de l'Église. Si elle ne peut pas enseigner, logiquement, elle ne peut pas devenir pasteur. Parce que si vous êtes pasteur et que vous ne pouvez pas enseigner, ça ne sert à rien de l'être. Elles ne doivent pas prendre aussi autorité sur l'homme, il est dit. Alors, prendre autorité, ce n'est pas ce qu'on entend souvent, c'est plutôt quelqu'un qui agit par sa propre autorité. Tiens, moi, je décide de faire ça. Voilà. Tu n'as rien à dire. Vous imaginez ce qui s'est passé comme ça dans l'Église ? Me pousser là, et maintenant j'ai envie de prêcher, dégage. Hein? Ah oui, mais c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas comme on l'entend des fois. Hein. Et là, encore une fois, le verbe est à l'infinitif présent, comme pour enseigner. Elle n'a pas le droit d'être enseignante, elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme dans le cadre de l'Église. La femme, en fait, Paul est en train de dire, la femme a son propre rôle. Hein. C'est pas celui d'exercer une autorité dans l'Église locale, parce qu'on le verra la prochaine fois, ça c'est réservé aux anciens, pasteurs, hein. Parce qu'il faut aussi savoir que dans la qualification d'un pasteur, il doit être mari d'une seule femme. Si je veux être une femme pasteur, je dois être donc femme avec une femme. Vous comprenez l'idée? Un pasteur a une femme. Il est mari d'une seule femme. Mais si je veux être une femme pasteur, donc je dois avoir aussi une femme. Il y a quelque chose qui ne va plus là, hein, quelque part. C'est un autre argument, mais bon. Mais il faut aussi se dire une chose, hein, parce que souvent on se focalise là-dessus, mais tous les hommes n'ont pas la responsabilité d'enseigner non plus. Hein, souvent, les femmes sont peut-être un peu lésées en se disant « Ah, moi, j'aurais bien voulu », mais tous les hommes n'ont pas non plus ce don. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont, d'ailleurs. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure Jean-Baptiste, ceux qui sont devant, ils seront jugés doublement. Moi, ça me fait un peu peur. Mais tout le monde n'est pas appelé à enseigner, donc il n'y a pas à se sentir lésé, à se sentir mis de côté. Chacun a un rôle, et c'est Dieu qui le désire. Hein. Dieu a mis chacun à sa place. Et si je commence à changer les rôles, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, hélas, mais je vais affaiblir et ruiner complètement l'édifice. L'Église aujourd'hui pète un plomb complètement parce que les femmes peuvent être pasteurs, elles peuvent être homosexuelles et pasteurs. Enfin, il y a des choses mais qui se font... C'est horrible, on est en pleine hérésie aujourd'hui. Hein, et ça existe. Et ça va rentrer dans l'Église, ça va venir un jour ici. N'ayez pas peur. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer un peu ce matin, même si c'est un peu technique, je suis désolé. Et souvent on dit aussi, ouais, mais à l'époque, les femmes, comme tu l'as dit, elles n'avaient aucune responsabilité, elles ne pouvaient pas être chefs d'entreprise et tout ça, alors qu'aujourd'hui, elles le sont. Ça, c'est la culture, c'est le contexte. Et il ne faut pas mélanger le contexte avec ce que dit la Bible. Et il donne le meilleur des arguments là, parce qu'il y a les versets qui suivent. Il va donner la raison pourquoi la femme ne peut pas prendre autorité ni enseigner. Et il le dit dans les versets 13 à 15. La première raison, c'est l'ordre créationnel. Adam, il est dit dans 1 Corinthiens 11 aussi, est le chef d'Ève. C'est pas Adam un jour qui a dit « Tiens, j'ai envie d'être le chef d'Ève ». Vous n'êtes pas dit ça un jour. C'est Dieu qui a décidé. C'est pas moi. Si je pouvais des fois fuir mes responsabilités d'homme, je serais bien content. Allez, vas-y, prends mes responsabilités, hein, comme ça, moi je suis tranquille. C'est pas moi qui ai décidé. C'était le désir de Dieu. Dieu n'a pas d'abord créé Ève, il a d'abord créé Adam. Et c'est pas moi, simple homme, qui veux dire à Dieu « Oh, tu t'es planté ». J'ai pas le droit, en tant que chrétien en tout cas. Et Ève a été aussi créée à cause de l'homme. Pour l'aider, hein, comme il est dit, et heureusement que Dieu nous a créé une femme. Et la subordination de la femme à l'homme, c'est pas encore Adam qui l'a décidé, c'est Dieu lui-même, c'est son désir, c'est sa volonté, c'est pas un caprice de l'homme, c'est Dieu qui a décidé que c'est comme ça. Alors on s'entend bien dans subordination, c'est pas tais-toi et fais ce que je te dis, on est bien d'accord, hein. La soumission c'est quelque chose de volontaire, parce que j'ai envie aussi d'obéir à Dieu. Mais l'homme est soumis à Christ aussi, hein, puisque Christ est chef de l'homme. Et l'homme est chef de la femme. Donc voilà, la première raison, il n'est pas en train de dire « c'est la culture qui dit que », il dit « regardez au début, regardez à la création ». Dans un deuxième temps, il parle de la chute. Hein. Il dit « Ève a d'abord désobéi, elle a été séduite en premier ». Je suis désolé, mesdames. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait en faisant cela? Elle a pris tout simplement la place du chef. Hein. Elle n'a même pas pris le temps d'écouter Adam ou de lui parler de quoi que ce soit. « Allez, manger le fruit, et toi, tu te tais, hein, monsieur. » Bon. Adam, il a aussi dû réagir. Adam, il est responsable. Hein. La Bible le tient pour responsable parce qu'il était le chef de famille. Il aurait dû dire quelque chose à madame. Aujourd'hui, nous, les hommes, des fois, on n'ose plus dire les choses à madame. Mais c'est aussi notre responsabilité. Avec amour, peut-être avec un peu des fois de sévérité, mais c'est notre responsabilité. Vous n'avez pas qu'il y ait des jardins d'Éden tous les jours. Mais elle a été séduite en première, pas Adam, mais Adam est responsable parce qu'il était le chef de famille. Donc, Paul est en train de dire la femme ne peut pas enseigner parce que dans le contexte, elle ne pouvait rien dire, etc. Et qu'aujourd'hui, elles peuvent être chefs d'entreprise. Il dit non, regardez à la chute. C'est parce qu'elle a chuté, la première, qu'elle ne peut pas aujourd'hui enseigner. Donc, l'argument n'est pas culturel, l'argument est créationnel, il est biblique. Si quelqu'un un jour vous dit pourquoi la femme ne peut pas enseigner ou être pasteur, ben simplement parce qu'elle a chuté au départ, tout simplement. Donc tous les arguments qu'on entend aujourd'hui, hein, culturels, etc., contextuels, ça n'a aucune valeur par rapport au texte biblique. Si elle ne peut pas, c'est parce que Dieu la désire déjà, mais aussi parce qu'elle a chuté à la base. Alors, il ne faut pas voir ça comme une punition non plus. Vous avez autre chose à faire que enseigner. Ce n'est pas toujours le plus plaisant d'être pasteur non plus. Hein. Mais l'argument, il est créationnel. Et voilà, le verset 15 est extrêmement compliqué. C'est un des versets les plus difficiles à expliquer. Je vais essayer d'être le plus simple. Il dit « Elle sera sauvée par l'enfantement et la persévérance ». On va juste relire le texte, verset 15, parce que c'est mal traduit. Elle est plurielle. « Elle, au départ, verset 15, c'est au singulier. Elle sera néanmoins, on s'adresse à Ève, sauvée en devenant mère, ou alors on peut dire par la maternité. Virgule. Si elle, normalement, c'est au pluriel. Là. Je ne sais pas pourquoi la seconde ou d'autres l'ont mis au singulier, mais dans le grec, c'est au pluriel. Si toutes les femmes persévèrent avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors, il y a plusieurs théories, et je vais vous les évoquer, hein, qui expliquent ce passage. Je ne sais pas si vous avez pris le temps un jour de l'étudier. Il y en a certains qui disent que là, Paul parle du salut physique par la maternité. Donc, si vous avez un bébé, vous êtes sauvé. Pauvres dames qui n'ont pas de bébé. vous n'êtes pas sauvés, mesdames. Hein. L'argument est complètement faux, on est bien d'accord. Hein. Et puis il y en a même qui sont mortes en accouchant. Alors qu'est-ce que ça voulait dire, hein. Deuxième argument, Paul parle d'un salut spirituel par la maternité. Son âme sera sauvée par l'enfantement. Ça, c'est un salut par les œuvres. C'est pas parce que vous avez enfanté un enfant que vous êtes plus spirituel ou que vous allez sauver. La Bible ne parle pas de cela. Troisième théorie, hein, Paul parlerait d'un salut spirituel si la femme reste au foyer. La femme sera sauvée si elle accomplit son rôle d'éducation, qu'elle accouche et qu'elle prend en fait soin des enfants. Si vous avez été une bonne mère, vous êtes sauvée. Une bonne mère, c'est valable ?
Non.
La Bible ne dit pas ça dans Éphésiens 2. Hein. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce. Donc il faut trouver une explication à ce texte. Alors voilà une explication. Hein. J'espère que ça va être assez clair, mais il s'agirait plutôt d'un salut spirituel par l'incarnation de Christ. Je m'explique. Alors déjà, le contexte de ce verset proche, c'est Ève. Hein. Il faut avoir l'idée que Paul était là dans la création et parlait d'Ève. Et vous savez qu'à Ève était faite une promesse que la postérité de la femme écrasera Satan. C'est dans Genèse 3, verset je ne sais plus combien. En fait, il est en train de dire que, à force d'avoir des enfants par la maternité, à un moment, cette fameuse... je perds les mots. Marie va venir et va donner naissance à Jésus-Christ qui, lui, va accomplir le salut pour tous les hommes. Cette postérité de la femme que vous êtes transmise jusqu'à Christ a permis qu'un jour Jésus-Christ vienne à naître et puisse être sauvé. Deuxième argument, c'est que il dit qu'elle est sauvée au travers. Ce n'est pas par son propre enfantement, mais on pourrait dire au sens général au travers de la maternité. Et on comprend bien l'argument. Au travers de la maternité d'Ève, puis de la maternité, 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 jusqu'à la maternité de Marie, qui a enfanté Jésus, ça permettra en fait le salut qui vient venir en Jésus-Christ. Alors, Ève est donc sauvée par la foi, comme tout le monde. On me posait la question, je crois que c'est vendredi, si Adam et Ève étaient sauvés. Je pense qu'elle est sauvée par la foi. Ils ont dû bien regretter après. Mais elle sera finalement sauvée au même niveau et au même moyen que l'homme, hein, c'est-à-dire par l'enfantement, c'est-à-dire l'incarnation du Christ à venir. Et cette promesse, évidemment, englobe toutes les femmes qui persévèrent dans cette espérance, ce qui est démontré par la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Donc, Ève, par sa postérité, permettra qu'un jour Jésus naisse. Et toutes les femmes, puisque c'est au pluriel, hein, si elles persévèrent, c'est pas Ève, c'est toutes les femmes, si elles persévèrent. Si quelqu'un persévère dans la foi, dans la modestie, dans l'amour et dans la sainteté, elle démontre quoi ? Qu'elle est sauvée. Non ? Il y a eu déjà des femmes qui ne sont pas sauvées, persévérer dans la foi ? C'est pas logique. Hein ? Donc si elle, au pluriel, persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, elle démontre quelque part qu'elles sont sauvées. Alors il faut faire attention de ne pas tordre le texte. Hein. Vous voyez, il est un peu compliqué. Vous avez compris ? Vous pouvez m'expliquer ? En résumé, par la postérité d'Ève, par les bébés qui vont naître et naître, hein, etc., pas à cause de sa maternité, mais à cause de la postérité à venir, de ses maternités à venir, un jour, le salut va venir grâce à Jésus-Christ qui va mourir sur la croix pour permettre à toutes ces femmes-là, et qui le démontrent maintenant par la foi, par l'amour, etc., d'accepter Jésus-Christ dans leur vie et d'être sauvées. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et si elles persévèrent, elles démontrent quelque part qu'elles ont leur foi. Donc, ce texte, il est un peu compliqué, c'est vrai, je le reconnais, je suis désolé ce matin, mais à un moment, il faut quand même en parler, pour dire que c'est pas moi qui ai envie de dire les femmes n'ont pas le droit d'être pasteurs ou n'ont pas le droit d'enseigner, c'est pas moi. Hein. Si c'était que moi, allez-y. Hein. Mais c'est le Seigneur, et l'argument, ce n'est pas ni le contexte, ni la culture, l'argument, il est simplement créationnel. C'est le désir de Dieu, c'est peut-être la punition de Dieu, je ne sais pas s'il faudrait le dire comme cela, mais Dieu a décidé que les choses sont dans cet ordre-là, et à nous de ne pas mettre les choses en désordre. Aujourd'hui, la société met tout en désordre. Tout ce que Dieu voulait, ils mettent tout en question. Hein. Plus mariage gay, mariage entre femmes, plus d'enfants, on choisit son sexe, on remet tout en question. Que nous ne fassions pas la même chose avec ce texte, et beaucoup d'églises commencent à le faire aujourd'hui, mais il y a de l'argumentation derrière. Il ne s'agit pas juste de lire le texte, et il faut étudier aussi la parole pour comprendre des fois certaines choses. Pour terminer, Dieu donc donne là des rôles à chacun dans l'Église, en tant qu'homme et en tant que femme. Et je n'ai pas à chercher le rôle de l'autre. C'est tout simple. On doit être fier du rôle que Dieu me donne. Non, vous êtes fiers du rôle que vous... Vous êtes fiers d'être des femmes, là? Oh, les hommes, vous êtes fiers des hommes, d'être des hommes?
Ouais.
Faudrait qu'on parle, les dames, hein, parce que c'est pas normal, ça. On a chacun des responsabilités, et on l'a vu, l'homme a la responsabilité de prier pour ce monde, pour l'Église, pour le réveil spirituel, et dans certains cas, il est appelé aussi à conduire l'Église. C'est pas toujours simple non plus. Hein. Je comprends pas pourquoi des gens veulent des fois être pasteurs. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Et puis la femme a ses responsabilités, celle de plaire à Dieu, on l'a vu au niveau du vêtement, mais je pense que c'est dans d'autres domaines. Et elles ont aussi cette responsabilité d'enseigner les femmes et les enfants. Hein. Ça, c'est votre part, que moi, je ne peux pas faire. Et c'est la même responsabilité, l'un et l'autre. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, ou plus valorisant que... C'est complètement faux, cette idée-là. On a tous des responsabilités. La question que je nous pose, est-ce que, à travers ce texte, on a envie de plaire à Dieu ? Oui, Seigneur, que tu éloignes de nous la tentation de faire comme notre voisin, ou qui regarde plutôt à ses propres désirs, plutôt qu'à ta parole. Qui ne prend plus acte de tes désirs personnels, de ce que tu as convenu dès le départ pour nous en tant que chrétiens, Seigneur. Et comme nous l'avons vu, merci pour ces rôles. Tu nous expliqueras un jour pourquoi tu as voulu que les choses soient comme ça, mais en attendant, c'est ton désir et tu nous le révèles dans ta parole. Et merci pour les hommes de cette Église et je te demande de les bénir, de les fortifier dans leur foi, de les faire grandir, qu'ils soient ces hommes et moi-même, avec ces mains pures, Seigneur, que... Nous pouvons élever. Tu sais que nous avons beaucoup de choses à apprendre encore dans ce domaine. Et fais de nous aussi des hommes de prière, avec l'envie de s'adresser à toi régulièrement, Seigneur, pour nos familles, pour l'Église, pour un réveil, mais pour aussi notre pays, Seigneur. Et c'est là où tu nous responsabilises, Seigneur. Je te remercie pour les dames aussi et leur rôle dans l'Église. Et nous l'avons dit. Merci pour leur manière de paraître et que tu les diriges, que tu leur donnes de la sagesse. Dans le vêtement, mais aussi dans leur façon d'être, et qu'elle soit un beau témoignage pour que d'autres dames puissent avoir envie de te connaître, Seigneur. Et merci pour leur rôle aussi d'enseignant dans les familles, Seigneur, entre elles. Que tu les bénisses dans ce ministère, que leurs enfants puissent te connaître, Seigneur, et venir à l'exemple de Timothée, un jeune pasteur, Seigneur, avec le désir de te servir. Et ça sera toute leur joie, je pense, et toute ma joie aussi. Merci de nous rappeler tes désirs, Seigneur, et de les mettre tout simplement en place et pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.